Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, avant de revenir ces deux prochaines semaines sur l'actualité de cette année, nous allons une nouvelle fois revenir sur 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Écrivez-nous d'ailleurs pour nous dire ce qui vous a marqué durant ces 12 derniers mois. Vous connaissez notre adresse semaine.actu@rfi.fr. Dans un instant, nous commencerons notre voyage. Rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité africaine après le flash et avec vos messages, bien entendu. Nous sommes cette semaine en compagnie d'un invité qui observe le monde depuis des décennies. Déjà, il s'appelle Ronny Broman. Il a été le président de Médecins Sans Frontières. Il écrit, il a enseigné aussi, il enseigne toujours. Bonjour Ronny Broman.
Bonjour.
Vous avez enseigné à Sciences Po et maintenant vous enseignez depuis d'ailleurs plusieurs années à Manchester.
J'ai enseigné longtemps à Sciences Po et en effet maintenant je continue à l'université de Manchester dans un institut qui s'intéresse aux questions humanitaires.
Alors vous êtes directeur de recherche à la fondation MSF CRASH, le nom me surprend toujours, c'est le centre de recherche.
Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires.
Voilà, là vous continuez à vous intéresser plus que jamais à l'action humanitaire, vous êtes essayiste également, vous avez écrit avec Catherine Portevin, c'était des entretiens pensés dans l'urgence, parcours critique d'un humanitaire, c'était un livre paru au Seuil en 2006. Et vous avez aussi fait un documentaire, on n'en parle jamais, je vais prendre deux minutes pour y faire référence. C'est un portrait d'Adolf Eichmann, à partir des écrits d'Anna Arendt.
C'est un portrait de ce criminel nazi, en effet, qui a été réalisé à partir des archives vidéo du procès Eichmann, qui s'est tenu à Jérusalem en 1961, et qui est en effet inspiré par le travail que Anna Arendt avait effectué sur ce personnage.
Alors il y a une actualité culturelle et politique aussi, c'est l'anniversaire, le 20e anniversaire de la mort d'Itzhak Rabin.
Oui, le 4 novembre dernier, c'était le 20e anniversaire, et un film très intéressant sur cet attentat vient de sortir par le réalisateur israélien Amos Gitai, qui montre qu'il s'agissait pas, enfin qui suggère fortement en tout cas, qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé. D'ailleurs, comment cela aurait-il pu être le cas dans un pays où la sécurité est si développée? Et il y a probablement quelque chose comme un état profond, une sorte d'OAS présente dans l'administration, dans l'armée et la police israélienne qui a permis que cet attentat soit impossible. Je rappelle que Rabin a été tué de 3 balles tirées dans le dos, presque à bout portant, par ce jeune tueur, enfin ce jeune assassin qui n'avait rien d'un professionnel de l'agression, du terrorisme, et que sans des complicités, on ne voit pas comment il aurait pu arriver si près de Rabin et tirer 3 balles. Il faut tout de même un petit peu de temps pour répéter les tirs.
Alors on va commencer notre voyage, il faut voir ce documentaire de ce film d'Amos Gitai, évidemment. On va commencer notre voyage, Ronny Broman, et revenir une semaine en arrière, avec d'abord la signature d'un accord à l'issue de la COP21 sur le réchauffement climatique et la satisfaction du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
Dimanche, second tour des élections régionales en France, toujours, et un soulagement dans la classe politique. Même si le Front National a toujours plus d'électeurs, il ne présidera pas de région. La droite n'a pas triomphé, la gauche non plus d'ailleurs. Écoutez ce commentaire de Martine Aubry.
Cela fait des mois que nous demandons des inflexions de la politique économique. C'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès. Et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique, car c'est bien d'avoir établi la compétitivité des entreprises, mais une inflexion pour qu'il y ait des commandes, des investissements. Tant mieux si Mme Le Pen et si le Front National n'ont pas d'élus, mais c'est eux aujourd'hui qui ont réussi à capter la colère des gens, l'angoisse des gens. Et ça devrait être nous qui, en leur reparlant de valeurs, en leur apportant des réponses concrètes, sont capables de leur redonner envie de politique et envie de gauche.
Une semaine d'actualité donc à écouter aussi sur le site de la radio rfi.fr.
7 jours dans le monde.
C'est important, Ronnie Broman, même s'il faut être prudent, l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe et des pays africains aussi ont décidé de créer une alliance contre le terrorisme. Riyad Mardi, Clarence Rodriguez.
Cette alliance militaire conduite par l'Arabie Saoudite aura pour principale mission de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Daesh, Al-Qaïda et autres sectes qui propagent la mort, la corruption sur terre, comme l'a précisé dans un communiqué le ministre saoudien de la Défense, Mohamed bin Salman. Cette initiative répond avant tout à une demande des États-Unis qui souhaitaient que les pays arabes s'impliquent davantage dans la campagne militaire menée contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Pour la formation de cette coalition ambitieuse, l'Arabie Saoudite pourra compter sur 34 pays menacés par le terrorisme, dont l'Égypte, les pays du Golfe, la Turquie, la Malaisie, le Pakistan et des pays africains, excepté l'Iran, son grand rival régional. La coordination s'effectuera également avec les principales puissances internationales et le centre des opérations militaires sera basé à Riyad. Face à la menace terroriste, il y a urgence, car ce sont tous les pays arabes et musulmans sans exception qui sont concernés.
Alors, Ronnie Broman, si je vous demande ce qui vous a marqué en 2015, ce qu'on fera la semaine prochaine et l'autre semaine rétrospective de l'année 2015, vous allez sans doute me dire le terrorisme et la lutte contre le terrorisme avec Daesh, l'organisation de l'État islamique.
Comment échapper à la pression de cette série d'événements, des attentats effroyables en Irak, au Nigeria, au Pakistan, l'année qui s'inaugure en France avec les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur de Vincennes, qui se termine pratiquement avec ceux du Bataclan et les quelques autres qui ont les terrasses de café. Oui, on ne peut pas manquer d'être marqué par cela. Alors, comment réagir à ça? D'abord, on partage à la fois l'angoisse, la peur, la révolte devant des actes aussi ignobles. C'est simplement une réaction humaine.
Humaine, oui.
Mais au-delà de cette réaction humaine, la question d'ordre politique doit être posée. Et elle commence par les limites que l'on peut voir d'emblée à une réaction militaire à ce développement du terrorisme. D'une part, parce que ce ne sont pas, il est impossible d'éradiquer, comme on l'entend dans la bouche de notre ministre de la Défense ou de notre président ou de la part d'autres dirigeants politiques. C'est impossible d'éradiquer parce que militairement on ne va pas, détruire, dévaster toute la région, tuer civils, combattants, écraser les villes dans lesquelles ils se trouvent sous les bombes. Donc déjà, techniquement, c'est totalement impossible. Et puis par ailleurs, le terrorisme n'est pas tombé du ciel. Même s'il ne s'agit pas de lui trouver des excuses ou des justifications, c'est évidemment pas le propos, il ne tombe pas du ciel. Le terrorisme est le produit à la fois de dictatures qui se sont installées, approfondies pendant des décennies, c'est-à-dire d'un exercice à la fois solitaire, violent et corrompu du pouvoir, qui a disqualifié toute opposition démocratique et finalement donné une légitimité à l'opposition religieuse, aux oppositions islamistes, qui ont servi en quelque sorte de refuge à la protestation contre ces dictatures depuis les années 60, peut-on dire, 60 ou 70.
Et pas seulement en Syrie, d'ailleurs.
Et pas seulement en Syrie, dans un grand nombre de pays. Donc, ces dictatures-là, il faut aussi en faire le bilan, jusqu'à quel point les avons-nous soutenues, voire les avons-nous encouragées, nous, je veux dire, les pays industrialisés, l'Occident, si on veut. Et puis, il y a eu les interventions internationales. Le mouvement des talibans et Al-Qaïda sont nés sur les décombres de l'intervention soviétique en Afghanistan, de cette guerre atroce qui a probablement tué plus d'un million d'Afghans, qui a entraîné le départ sur les routes de plusieurs millions de déplacés, c'est-à-dire de réfugiés internes, mais également de réfugiés au Pakistan et en Afghanistan. L'intervention américaine en Irak a créé une sorte de nouveau concurrent dans la surenchère par rapport à Al-Qaïda avec l'État islamique Daesh. Et quand j'entends dire que en Syrie, on n'est pas intervenu, et c'est la raison pour laquelle Daesh a pu prospérer. Les bras m'en tombent parce que Daesh est une organisation irakienne qui entend
qui a essaimé, qui entend
remodeler les frontières du Proche-Orient à partir de l'Irak. Mais l'état-major de Daesh, ce sont bien des baasistes et des islamistes irakiens qui ont construit leur légitimité à partir de la résistance à une agression et à une occupation qui sont celles des États-Unis. Donc, ayons à l'esprit que utiliser les méthodes qui ont entraîné la création du terrorisme pour le détruire, c'est un peu se tirer des balles dans le pied. Alors certes, les moyens militaires sont inévitables, la situation est ce qu'elle est, il faut bien arriver à contenir les menées militaires de Daesh. Mais s'en tenir à une pure réponse militaire, c'est se condamner à un échec retentissant, je pense.
Alors j'ajoute, Ronnie, que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi à l'unanimité, donc 15 États membres, une résolution qui a pour but, en principe, de tarir les sources de financement des djihadistes du groupe d'État islamique.
Un mot peut-être là-dessus. Une des façons de lutter contre le terrorisme, c'est en effet d'avoir accès à des comptes bancaires, à des transactions financières, à des mouvements de fonds importants. Or, depuis des années et des années, l'opacité sur les transactions financières est soigneusement entretenue, en particulier par les États-Unis, mais par le système financier dans son ensemble. Et il ne faut pas se laisser berner par le fait que la Suisse ait renoncé, ce qui est tout de même une avancée, je crois, si j'en entends. Si j'écoute les spécialistes, je vois que ça change tout de même des choses. On va dans le bon sens. Mais on est loin du compte. Et on apprend ici et là que, par exemple, les États-Unis refusent de communiquer des informations importantes aux services européens, en particulier français, concernant des transactions financières qui pourraient avoir une importance dans la lutte contre le terrorisme, mais qui ne sont pas rendus publics, pour des raisons d'ailleurs que je ne connais pas, mais qui, à mon avis, tiennent au fait, d'un point de vue global, tiennent au fait qu'on n'a pas envie, parce que les paradis fiscaux servent bien les intérêts de très grandes compagnies multinationales, sur lesquelles elles déposent des milliards de dollars, que ces intérêts financiers sont absolument colossaux, et qu'ils s'opposent à une compréhension, à une transparence des circuits financiers internationaux. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'intérêts des multinationales qu'il va falloir mettre en cause si on veut obtenir un résultat.
Alors dans la même rubrique, en quelque sorte, Ronnie, je voudrais qu'on parle de la Libye maintenant, car des députés, des hommes politiques libyens ont signé jeudi au Maroc un accord parrainé par les Nations Unies qui prévoit un gouvernement d'union nationale pour sortir le pays du chaos, malgré l'objection des deux parlements rivaux, qui l'ont rejeté d'ailleurs d'avance, alors que l'organisation de l'État islamique prospère. David Thompson, jeudi.
À Skirat, au Maroc, la signature de l'accord de paix a été saluée au cri de Libya, Libya et par plusieurs minutes d'applaudissements. Pour autant, en Libye, les chefs des deux parlements continuent de rejeter le texte et les principaux groupes armés de Tripoli n'étaient pas non plus présents pour le signer. Pourtant, selon l'accord, la nouvelle autorité est bien censée siéger dans la capitale libyenne, mais il n'est pas certain que cela soit accepté. Autre question ? Sous 40 jours, cet accord prévoit que les deux parlements rivaux se fondent respectivement en une chambre des représentants et en un conseil d'État, en plus d'un même pouvoir exécutif collégial. Problème, si les leaders des deux parlements continuent de rejeter l'accord de l'ONU signé hier au Maroc sous la pression de la communauté internationale, mais sans l'unanimité de tous les acteurs de la crise, le risque de voir naître une troisième autorité libyenne en plus des deux parlements rivaux n'est pas totalement exclu. Dans un tel scénario, cet accord de paix signé au Maroc soulèverait plus de questions qu'il n'en résoudrait, et ce dans un contexte où l'État islamique continue d'asseoir son pouvoir et son autorité autour de la ville de Sirte, l'ancien bastion du colonel Kadhafi.
Alors là, Ronnie Bauman, c'est une vraie menace qui est de l'autre côté de la Méditerranée.
Ah oui, là c'est tout près. Hein. L'Italie et la Libye ont pratiquement une frontière commune, ce sont des voisins proches, et en effet la menace est très forte. Moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière par rapport notamment à ce dont nous parlions à l'instant sur les résultats provoqués par des interventions internationales. Il se trouve que en Libye, si l'on écoute des spécialistes comme par exemple Patrick Hemzadeh, qui est l'un des plus éminents spécialistes français, David Thompson étant lui un éminent spécialiste du terrorisme, et moi je souscris parfaitement à ses réserves, aux réserves qu'il a exprimées, mais Patrick Hemzadeh nous apprend, parce qu'il en a eu l'expérience de terrain, que dans ce régime dictatorial, corrompu, qui pratiquait la torture et l'arbitraire, qui était celui du régime, qui était celui de Kadhafi, il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi une culture de la négociation Du fait de l'investissement des différentes tribus dans les cercles de pouvoir à la fois national et local, et les massacres de masse n'étaient pas l'ordinaire de la Libye. Loin de là, en fait, on en dénombre un seul, celui de l'insurrection islamiste de 1996, de la prison de Tripoli, qui a été écrasée dans le sang. Mais pour le reste, ça n'était pas comme ça qu'on gérait en Libye. Il y a une culture de la discussion et de la délibération et du compromis qui a été délibérément mise à l'écart à partir du moment où l'intervention armée a été considérée comme la réponse à la fois morale
en
et
2011.
Politique en 2011 que l'on voulait. Et je me rappelle que à l'époque, les médias français, les intellectuels français, l'opinion même dans son ensemble était massivement en faveur de cette intervention, ne se rendait pas compte qu'on demandait à un éléphant d'aller aménager un magasin de porcelaine. Et cet éléphant a en effet tout cassé sur son passage et a déclenché une vague de violence que on a bien du mal à arrêter. Et Daesh a prospéré sur cette vague de violence comme
Sirte, notamment,
comme Al-Qaïda a prospéré sur les ruines de l'intervention soviétique en Afghanistan et l'Irak, etc. Donc il y a aussi un examen de conscience à faire. Bien entendu, il y a des sujets du moment. Moi, je n'ai pas de levier politique en main. Je ne vais pas prôner de solution. Là aussi, il y a sans doute une dimension militaire au conflit en Libye et au développement du terrorisme. Mais surtout, pas seulement ça. Il y a bien d'autres choses.
On va terminer cette première partie d'une semaine d'actualité, Ronnie, avec une bonne nouvelle en cette fin d'année. Elles sont rares, il faut donc s'y arrêter. Il s'agit de promesses sérieuses de paix en Colombie. Un processus de paix qui se précise, semble-t-il. Romain Lemaresquier.
L'année 2016 sera celle d'une nouvelle aube pour la Colombie, l'aube d'un pays sans guerre, sans conflit, d'une Colombie, espérons-le, unie, qui progresse jusqu'à son meilleur potentiel. Juan Manuel Santos, le président colombien, ne pouvait être plus dithyrambique. Parvenir à un accord entre le gouvernement et les FARC sur la question des réparations envers les victimes de ce conflit armé était considéré comme le point le plus compliqué de ce processus de paix engagé il y a plus de 3 ans. Le gouvernement, les FARC et les autres secteurs impliqués dans ce conflit se sont engagés ce mardi à demander pardon aux Colombiens. La guérilla contribuera aux réparations matérielles en faveur des victimes en reconstruisant notamment les infrastructures détruites, en retirant les très nombreuses mines antipersonnelles, en remplaçant les cultures illicites et en aidant à retrouver les restes des dizaines de milliers de victimes disparues. Les FARC participeront également à des programmes environnementaux pour réparer les dégâts causés. De son côté, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des programmes pour permettre le retour des déplacés. C'est le 4e point de ces négociations qui en compte 5. Cet accord, selon Juan Manuel Santos, met les victimes au centre de la solution. C'est un pas très important, a-t-il souligné, avant d'annoncer qu'au plus tard le 23 mars prochain, c'est-à-dire dans moins de 4 mois, la paix pourrait être signée.
Sept jours dans le monde.
Un accord de paix qui pourrait être signé, dit Romain Lemaresquier. Il faut être prudent, c'est le conditionnel, mais ça fait du bien d'entendre ce genre d'informations.
Hein. Oui, c'est le cadeau de fin d'année de la Colombie au monde. Il va falloir suivre son exemple, en effet.
Alors, c'est pas la première fois qu'on parle d'espoir de paix en Colombie, mais là, ça semble assez sérieux.
Ça semble sérieux, cette fois-ci. Oui.
Hein, heureusement qu'il y a l'Amérique latine, parce qu'il y a aussi ce rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis en 2015.
Oui, le monde n'est pas condamné au pire, et de temps en temps, quelques bonnes nouvelles viennent nous le rappeler. Oui,
c'est ce que je voulais que vous signaliez. Dans cette période un peu sombre, Ronnie Broman, nous allons marquer une pause et nous retrouver dans 3 minutes après un point sur l'actualité de ces derniers jours. A tout de suite donc.
Manu
Didi Bango vous présente la compilation Merci Thank You. Retrouvez l'œuvre d'une légende.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité.
N'oubliez pas de nous dire ce qui vous a marqué cette année en nous envoyant un message à l'adresse suivante semaine.actu@rfi.fr. Nous sommes en compagnie de Ronnie Broman dans ce voyage dans le temps. Tout à l'heure, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages, mais tout de suite l'actualité française et bien sûr un retour sur le résultat des élections régionales. Véronique Rigolet.
Dans le Nord et en région PACA, Marine Le Pen, la patronne du FN, et Marion Maréchal Le Pen, sa nièce, sont toutes deux sèchement battues dans leur duel contre la droite. Le vice-président du parti, Florian Philippot, est également perdant dans le Grand Est, victime lui aussi d'un sursaut de mobilisation des électeurs pour barrer la route à l'extrême droite. À gauche, l'alliance PS, écologiste et Front de Gauche sauve les meubles, avec 5 régions conservées dont la Bretagne et l'Aquitaine, mais avec la perte de la région Île-de-France, bastion de la gauche depuis 17 ans. De son côté, la droite limite également la casse, sans obtenir de grandes vagues bleues, mais en gagnant 7 régions, dont outre l'Île-de-France, la puissante région Rhône-Alpes-Auvergne. Pas de quoi en tout cas triompher pour la majorité comme pour l'opposition, dont les leaders ont dès hier promis de prendre en compte les aspirations des Français. L'avertissement a été entendu, a déclaré Nicolas Sarkozy, à l'instar du Premier ministre Valls, qui souhaite apporter la preuve que la politique ne reprendra pas comme avant. Vaste challenge. Alors que le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, demande déjà une inflexion de la politique menée pour une lutte plus efficace contre la précarité et en faveur de l'activité.
Alors écoutons une réaction après ce scrutin, le dernier avant l'élection présidentielle de 2017. Nous avons entendu la socialiste Martine Aubry tout à l'heure. Écoutons maintenant Marine Le Pen dimanche soir.
Je vous félicite, mesdames, messieurs, électeurs patriotes, courageux et déterminés, d'avoir su refuser les intimidations, l'infantilisation et les manipulations. Cet entre-deux-tours a vu le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale en poste, possédés par leurs emportements, y tenir des propos d'une irresponsabilité inquiétante qui conduisent à s'interroger sur les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation décidé dans les palais dorés de la République et exécuté servilement par ceux qui vivent de ce système et souvent y prospèrent sur le dos des Français face à tous les partis politiques, tous, sans exception.
Autre chose, en France, ces derniers jours, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a été renvoyée jeudi en procès pour négligence dans la gestion de l'arbitrage Tapie. Une perspective gênante pour elle, pour l'ancien ministre de l'économie, à qui l'institution, le FMI, donc, a renouvelé sa confiance, Guilhem Deltaï.
Christine Lagarde le dit et le redit, elle n'a agi dans cette affaire que dans l'intérêt de l'État. Mais l'ancienne ministre n'a pas convaincu les magistrats instructeurs. Pour le site d'information Mediapart, qui a eu accès au compte-rendu de ses auditions, sa ligne de défense est difficile à comprendre. D'après le site internet, l'ex-ministre a cherché devant les enquêteurs à faire porter la faute sur ses collaborateurs et notamment son ancien directeur de cabinet Stéphane Richard, aujourd'hui patron du groupe Orange. Les notes de son administration la mettant en garde contre la procédure d'arbitrage, elle aurait dit ne pas en avoir eu connaissance. Des lettres signées de son nom semblant aller dans le sens de Bernard Tapie, elles ont été signées automatiquement, aurait-elle assuré, sans passer entre ses mains. L'ennui, souligne Mediapart, c'est que lorsqu'elle était au gouvernement, Christine Lagarde revendiquait alors la paternité de ses courriers, se disait parfaitement informée dans ce dossier. Elle ne se présentait pas comme une ministre dépassée par les événements.
Sept jours en France.
Notre voyage dans l'actualité de la semaine, Ronnie, donc, nous amène en France présentement. Vous voulez commenter les résultats des régionales? Il faut préciser que le Front National a eu 6 millions de voix au premier tour et 6 800 000 au second tour. Donc même s'il n'a pas de région, le Front National progresse en voix.
Oui, moi j'ai l'impression que tout le monde est perdant dans cette affaire. Le Front National a gagné en voix mais n'a pas réussi à décrocher une présidence et les partis, disons, traditionnels se sont vus malmenés par cette dynamique que représente le Front National. Et il me semble qu'il est installé durablement dans la vie politique française et que ce ne sont pas des... Je ne veux peut-être pas parler de manipulation comme l'a fait Marine Le Pen, mais ils ont des arrangements avec la loi électorale qui vont permettre de dissimuler cette réalité. À un moment ou à un autre, il va bien falloir accepter que des élus Front National siègent à l'Assemblée et dans les différentes assemblées territoriales. Il est préférable que ces voix s'expriment dans un contexte institutionnel plutôt qu'elles en soient bannies et n'aient finalement que la rue et l'aigreur de ne pas être représentées pour s'exprimer.
Alors, il y a beaucoup question ces derniers jours aussi d'une union nationale, en quelque sorte, contre le chômage, unissant la droite et la gauche. On dit souvent ça après des élections difficiles. Vous y croyez, vous, à cette perspective qui est toujours difficile en France à mettre en avant ?
Je n'y croirais pas tant que ces déclarations ne seront pas traduites par des mesures concrètes. À ce stade, moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais comme tous les Français, je suis extrêmement sceptique.
Alors, je voudrais qu'on va partir en Afrique dans un instant, mais je voudrais qu'on s'arrête et qu'on parle un peu de Médecins sans Frontières. Dans la perspective de ce qui s'est passé ces derniers mois, Ronnie Moorman, je pense notamment au bombardement de l'hôpital de Kunduz en octobre, début octobre, en Afghanistan. Il y a eu aussi le bombardement d'un hôpital de MSF au Yémen au début de ce mois-ci. Il y a eu d'autres cas
en
Syrie. Il y a sur le site du crash de Médecins Sans Frontières, donc le site internet, un article qui s'intitule « Aide médicale en ligne de mire, plus que jamais ».
Oui, de là à déterminer s'il y a une tendance, je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. De fait, il y a un regroupement au cours de ces derniers mois. Malheureusement, plusieurs hôpitaux ont été bombardés. Lorsqu'on s'intéresse aux circonstances précises de ces bombardements, on s'aperçoit que, d'une part, ce n'est pas le résultat d'une sorte de conspiration ou d'une volonté coordonnée de s'en prendre à des hôpitaux de Médecins Sans Frontières ou à des hôpitaux humanitaires en général, et d'autre part que à chaque fois il y a des circonstances plus précises. Par exemple, en Afghanistan, je pense que c'est là-dessus que je veux insister parce cet attentat à Kunduz, cette agression, a été meurtrière.
30 morts,
37 blessés, et parmi eux, des blessés graves qui vont être handicapés pour le restant de leur vie. Le bâtiment principal de l'hôpital entièrement détruit. Bon, le général Campbell, qui est le chef d'état-major donc des forces armées américaines en Afghanistan, s'en est expliqué, et il faut malgré tout reconnaître, malgré l'horreur donc de cette situation, que les Américains ont fait un effort réel de mise à jour, non pas au grand jour, parce que les 3000 pages des rapports d'enquête faites sont pas accessibles, elles sont couvertes par le secret militaire, on pouvait s'y attendre naturellement, mais disons les 5 pages de synthèse et puis les propos tenus par le général Campbell laissent entendre, enfin, ils reconnaissent que c'est une erreur tragique, que Médecins Sans Frontières n'est pas une organisation terroriste ou qui cache des terroristes, qu'une série de dysfonctionnements, d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de communication, d'acharnement a conduit comme dans tout accident industriel, si on peut se dire, c'est une série malheureuse d'erreurs et d'appréciations ou de fonctionnement. Et ça, c'est important. Mais l'autre aspect de cela, c'est ce que ont déclaré un certain nombre de dirigeants afghans, pas tous. Certains sont allés dans le sens contraire. Donc, heureusement, il y a ouverture là. Mais plusieurs dirigeants afghans ont pris à partie Médecins Sans Frontières, son hôpital qui s'est trouvé situé sur la ligne de front quand les talibans ont repris cette ville de Kunduz, en nous accusant de dissimuler ou de laisser évoluer au sein de notre hôpital des dirigeants talibans et de devenir en quelque sorte une cache pour les talibans. Ce qui les amenait à justifier cette attaque, ce qui contredisait par ailleurs ce que disaient les Américains. Donc là, il y a un discours au terme duquel une installation humanitaire, parce qu'elle opère tout le monde, les talibans pas plus que d'autres, mais pas moins non plus, elle opère les blessés, elle soigne les malades qui lui arrivent, comme fait n'importe quel hôpital, n'importe où dans le monde, au motif que certains d'entre eux seraient des combattants, une sorte de licence de tuer serait accordée ou devrait être accordée. Ça, c'est un problème très préoccupant qu'il faut mettre au grand jour, et Médecins Sans Frontières attend légitimement que les autorités afghanes s'expliquent là-dessus. Sommes-nous autorisé à travailler selon les règles de l'action humanitaire, qui ne sont pas celles de Médecins Sans Frontières, qui sont les règles générales. Est-ce qu'un hôpital doit trier entre le passé, entre les victimes, celles qui sont les malades et les blessés? Ça, c'est ce que c'est les autorités question. Afghanes... C'est une vieille question qui a ressurgi à propos de cette terrible attaque.
Et j'ajoute, Ronnie Mouman, que Médecins Sans Frontières a remis mercredi à la Maison Blanche, à Washington, à Barack Obama, une pétition signée par plus de 500 000 personnes, 547 000 personnes, pour réclamer une enquête indépendante sur ce bombardement.
Oui, bon, je ne sais pas si une enquête indépendante aujourd'hui nous apporterait beaucoup plus de lumière sur la question. Il me semble que la priorité, c'est de savoir si les autorités afghanes acceptent qu'il y ait des installations humanitaires qui fonctionnent selon des règles humanitaires ou pas. Ça, c'est l'enjeu primordial.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique maintenant, Ronnie, au Burundi précisément, où cette année aura été lourde de menaces dans le contexte de la réélection contestée de Pierre Nkurunziza. L'ONU en tout cas est inquiète, très inquiète. New York mardi, Marie Bourreau.
C'est un tableau dramatique qu'ont dépeint les deux responsables onusiens de retour d'un voyage au Burundi. 700 000 personnes manquent de nourriture, soit 36% des Burundais. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais surtout, un peu plus de 29 millions d'euros manquent toujours aux caisses des agences humanitaires sur le terrain.
S'il n'y a aucune aide au développement ou aide humanitaire, les ressources actuelles seront insuffisantes pour couvrir le coût de services très basiques pour la population.
Conséquence, les services de santé ont rencontré leur première rupture de stock de médicaments et les prises en charge médicales gratuites des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes se sont arrêtées. À New York, l'ONU est de plus en plus pointée du doigt pour son incapacité à résoudre la crise, un constat que John Ging, le directeur des opérations humanitaires, refuse de faire.
Ce que fait l'ONU sur le plan politique, ça n'est pas notre affaire. Tout ce qui nous préoccupe, c'est de nous assurer que nous, les agences humanitaires de l'ONU avec les ONG partenaires, nous faisons notre travail.
Mais les voix s'élèvent pour faire plus et notamment engager une opération de maintien de la paix sur laquelle le Conseil de sécurité a été jusqu'à présent incapable de s'entendre.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, le chef rebelle centrafricain Noureddi Madan, qui a rejeté le processus électoral visant à mettre fin aux violences dans le pays, a déclaré un état autonome éphémère dans son fief du nord-est du pays, moins de deux semaines avant la date prévue pour les élections dans le pays, donc en Centrafrique. La République du Logone a été proclamée le 14 décembre. Bangui, mardi, Matteo Guidou.
Un drapeau jaune, noir et vert avec en son centre une étoile blanche. Voilà le symbole plus qu'éphémère hissé sur la gendarmerie nationale de la ville de Ndélé dans le nord-est de la Centrafrique par des partisans de Noureddi Madan. Le colonel Moussa Mahalou Terap est le porte-parole du mouvement, le FPRC.
Malgré des propositions pacifiques émises ouvrant voie à une sortie de crise, les réponses à ces préoccupations sont restées vains mots. Le FPRC déclare autonome le Nord-Est, débouchant sur une partition dans la paix, la sérénité et sans violence.
Sitôt hissé, sitôt descendu par les casques bleus, le gouvernement a ensuite réagi dans la journée par la voix du ministre de l'administration du territoire, Walidou Bachir. Aucune tentative de partition du pays ne sera acceptée ni envisagée, martèle-t-il.
Toute tentative de partition ne sera pas acceptée. Et je crois que les personnes qui se livre à ce genre de jeu, le savent. Ce n'est pas la population. La population n'adhère pas à ce plan.
Et depuis le référendum, les hauts gradés de l'ONU se succèdent à Kaga Bandoro, le fief de Noureddi Madan, pour affirmer une chose, pas question pour les groupes armés de perturber le processus électoral.
Alors l'année 2015, Ronnie Mouman, c'est aussi l'année du Burundi avec les tensions très préoccupantes qui y règnent depuis le mois d'avril et depuis la réélection de Pierre Nkurunziza notamment.
Oui, en effet. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ce que l'on voit au Burundi de ce que l'on observe également au Rwanda, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Burkina, à savoir des chefs d'État qui procèdent à des sortes de coups de force constitutionnels de façon à rester au pouvoir, enfin s'accrocher au pouvoir et à devenir des présidents à vie. Mais de façon légale, enfin de façon légalisée, si ce n'est de façon légitime. Ça, c'est une préoccupation tout de même très sérieuse, en effet. Mais le Burundi, du fait des problèmes sociaux extrêmement graves qui s'y posent, du fait de l'autoritarisme et de la violence croissante manifestée par son président, et dans une situation particulière, on est en train de dériver vers la guerre civile, et on sait que les manipulations ethnicistes auxquelles procède le président Nkurunziza sont porteuses de désastres potentiels. Quand on entend un haut responsable appeler les milices à se préparer au travail, et quand on,
ça rappelle
quand
le
quand
sinistre,
on se rappelle ce que le mot travail représentait au Rwanda, on sait qu'il s'agit d'une préparation au massacre, une préparation à des crimes de masse. Donc il y a là en effet quelque chose d'extrêmement préoccupant. Par ailleurs, les visées du Congo et du Rwanda sont assez proches, des visées contraires d'ailleurs, mais qui sont assez proches. Le Rwanda promettant d'intervenir si la minorité Tutsi du Burundi se trouvait en danger, ce que l'on peut comprendre, même si on peut douter que cela déboucherait sur autre chose qu'une guerre dévastatrice, ça peut tout de même se comprendre. Donc en effet, il y a de quoi s'inquiéter au Burundi, et malheureusement, on constate, comme d'habitude, que le Conseil de sécurité, disons l'ONU, enfin l'ONU est devenue une sorte de journaliste global. Si vous voulez. Ils font des rapports, mais pas forcément plus mieux informés que ceux des bons journalistes au demeurant, mais peu de choses. Ce n'est pas la même chose d'ailleurs pour les agences de l'ONU, font du travail qui est conséquent, et la différence entre leur présence et leur absence peut être constatée. En revanche, la différence entre l'absence et la présence du Conseil de sécurité des résolutions, elle n'est pas vraiment perceptible.
Sept jours en Afrique.
En Afrique, avec cette fois la fin des auditions, 4 mois après le début du procès d'Hissène Habré à Dakar, reportage de Guillaume Thibault.
Amené de force car il refusait de comparaître,
c'est la chambre qui a ordonné qu'on vous amène.
Hissène Habré s'est ensuite muré dans le silence, caché sous son turban et ses lunettes de soleil. Pour les victimes, comme Souleymane Gengeng, ce silence n'a pas de sens et la tenue de ce procès est un grand pas en avant.
Honnêtement, j'ai le sentiment de satisfaction. Ça jette une base pédagogique pour une bonne leçon de tous les dirigeants africains.
La stratégie du silence d'Hissène Habré n'a pas été simple à gérer pour ces 3 avocats commis d'office. Maître Mounir Balal.
C'est vrai que pour la défense, ça a été un gros handicap, le fait que le président Habré ait systématiquement refusé tout contact. Je crois que en fait, il reste et il demeure très attentif en fait au débat.
Les avocats commis d'office ont annoncé qu'ils plaideraient l'acquittement d'Hissène Habré. Au contraire, les avocats des partis civils chercheront à prouver la culpabilité de l'ancien président, maître Georges-Henri Bottier.
Je crois que ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Le silence d'Hissène Habré était peut-être un grand, dans sa tête en tout cas, maintenant c'est devenu un tout petit monsieur. Chaque fois qu'on parle de torture, chaque fois qu'on parle de lui, il bat un peu plus des pieds, mais il ne dit rien.
Le silence d'Hissène Habré devrait durer. Les plaidoiries sont prévues en janvier. Le verdict de son procès n'est pas attendu avant juin 2016.
Ronnie Bowman, la colère enfle en Afrique du Sud. De plus en plus de Sud-Africains demandent carrément la démission du président Jacob Zuma. Reportage mercredi à Johannesburg de notre correspondante Alexandra Branjon.
Sur les pancartes, on peut lire « Zuma must fall ». Zuma doit tomber. Les manifestants sont en colère contre un président qu'ils estiment corrompu et égoïste. Ils veulent sa démission et veulent que l'ANC, le parti au pouvoir, se ressaisisse. Michael, 50 ans, déçu de l'ANC.
J'ai voté pour l'ANC. J'étais fier d'être un membre de l'ANC. C'était un bon mouvement de libération parce qu'il avait une idéologie. Mais aujourd'hui, tout ça est passé où ? Ils sont devenus un parti politique. Ils ont vu les milliards. L'Afrique du Sud est un pays riches. Ils pillent les coffres de l'État pour leur petit empire, leurs amis. Ils s'accrochent au pouvoir, ils changent les règles du jeu.
Déception également de Queen, mère de famille, venue manifester avec ses 2 enfants.
Je suis déçue que l'ANC continue de dire qu'il n'y a pas de crise. Déçue qu'ils continuent de défendre le président quand il fait tant d'erreurs. Je pense que ça leur est égal, ils s'en fichent.
Le remaniement ministériel de la semaine dernière n'est qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le mécontentement des Sud-Africains bout depuis des mois, alimenté par des affaires de corruption et de népotisme.
Je pense qu'il est grand temps que nous sortions de notre silence pour dire trop c'est trop et montrer notre désaccord. Zuma doit se rappeler qu'il a rendez-vous avec nous très bientôt lors des élections.
Ce fiasco pourrait coûter cher à l'ANC. Le parti au pouvoir a certes remporté haut la main les élections générales l'an dernier, mais pourrait perdre certaines grandes municipalités lors des élections locales dans 5 mois.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire pour nous dire par exemple ce qui vous a marqué en 2015. Et d'abord cette citation. Bonjour à toute l'équipe d'une semaine d'actualité. Si nos chefs d'État pouvaient intégrer cette phrase du Christ, il est avantageux pour vous que je m'en aille, contenue dans les évangiles, l'Afrique éviterait bon nombre de conflits armés dus à l'entêtement de certains chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Signé Hippolyte depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour à Alpha Oumar. Je salue RFI et ses auditeurs. J'invite Alpha Condé à lutter contre la pauvreté, le chômage des jeunes et l'injustice, écrit-il. Un bonjour à Samy, à Abidjan, et je salue aussi Saloum, qui est professeur d'espagnol à Dakar, qui lui-même salue les auditeurs de RFI à Bambé. Il écrit, lui, « Je pense que la déclaration de certains dirigeants africains pour lutter contre le terrorisme expose plutôt leur peuple. Personne n'est d'accord avec les terroristes, bien sûr, mais c'est une bataille qu'il faut mener avec tact et intelligence. » Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique, singulièrement avec vous, Ronnie Broman. Vous avez vu, à Dakar, la justice internationale est à l'œuvre. Quand même, c'est un progrès dans le monde de l'après-guerre froide, qui plus est un procès en Afrique.
Oui, enfin, un procès d'Africains en Afrique. Un des problèmes de la justice internationale, c'est que pour l'instant, elle ne s'est intéressée qu'à des dirigeants qui n'avait pas de protecteur international, qui se trouvait isolé.
C'est le reproche qu'on lui fait, notamment des dirigeants africains.
Enfin, mais oui, et c'est un reproche qui peut être instrumentalisé, naturellement, pour faire oublier ses propres turpitudes, mais c'est un reproche qui ne peut pas être ignoré, parce que il est confirmé par les faits. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop attendre de la justice internationale, il faut beaucoup plus attendre des populations, des sociétés, des partis, des syndicats, des ONG qui se battent concrètement sur des enjeux concrets. La justice internationale, elle pourra, ici ou là, donner quelques coups de sifflet, allumer un feu rouge pour dire attention, mais enfin, il ne faut pas attendre d'elle quelque chose qu'elle ne peut pas fournir.
Alors, il y a l'Afrique du Sud aussi, vous avez vu, l'époque de Mandela est définitivement lointaine, s'éloigne. Hein. Là, on est dans un cycle de corruption, contestation.
Et oui, manifestement, l'ANC a dilapidé le capital de soutien, de sympathie, d'adhésion très fort, y compris d'ailleurs en dehors des frontières sud-africaines. Je pense qu'ici, dans ce studio, l'ANC bénéficiait de tout le soutien qu'elle méritait à l'époque du combat contre l'apartheid. Jacob Zuma est devenu une sorte de caricature, une forme de Caligula qui n'hésite pas à tenir des propos xénophobes sur les Zimbabwéens ou sur divers voisins anti-immigrés, anti-réfugiés, à jouer sur des divisions ethniques à l'intérieur. C'est un homme qui joue son jeu politique de façon extrêmement perverse, très dangereuse pour l'Afrique du Sud. Et au fond, ce que l'on observe, c'est une réaction pleine de santé, pleine de vigueur contre un pouvoir qui abuse du capital dont il jouissait. Alors que Jacob Zuma parte, que d'autres à l'ANC, ou d'ailleurs dans d'autres partis, parce qu'il n'y a pas que l'ANC en Afrique du Sud, c'est quand même un régime démocratique, il y a plusieurs partis, il y a d'autres partis démocratiques que l'ANC, et bon, c'est une façon de vérifier que rester trop longtemps au pouvoir, c'est toujours très malsain, que le pouvoir finit par corrompre, presque inévitablement, d'où un éloge de l'alternance, qui n'est pas une solution miracle, mais qui est une nécessité politique absolument primordiale, et d'où le rappel qu'il faut que le pouvoir soit divisé de l'intérieur. Hein, un pouvoir qui est monolithique, qui contrôle le législatif, l'exécutif, le judiciaire, est un pouvoir qui abuse. Et d'ailleurs, ça nous rappelle aussi que, par exemple, l'état d'urgence en France, qui amène à mettre à l'écart le pouvoir judiciaire au profit d'un pouvoir exécutif
peut présenter un risque,
très fort, c'est pas qu'il peut, il présente, et on voit déjà des abus de ce pouvoir judiciaire. Alors, je ne veux pas tout mélanger, mais simplement rappeler cette réflexion fondamentale depuis le XVIIIe siècle, disons, sur le pouvoir et la nécessité qu'il soit divisé de l'intérieur et que les institutions organisent sa division et le renouvellement ou au contraire l'absence de renouvellement de ceux qui sont au pouvoir. Ça, ce sont les deux conditions absolument primordiales pour contenir les visées d'abus du pouvoir.
Merci Rodney Bourman d'avoir partagé avec nous cette heure de rétrospective de l'actualité de la semaine. Vous revenez quand vous voulez. Vous
merci
êtes un des amis
merci
du club de la semaine d'actualité. Une semaine d'actualité précisément réalisée bien sûr par Vanessa Rovansky. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, vous le savez, www.rfi.fr. Rendez-vous demain aussi pour notre magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Cette semaine, comme nous le faisons régulièrement, nous allons vous proposer l'œuvre d'un grand philosophe classique, Nietzsche. En l'occurrence, nous parlerons de sa pensée en compagnie d'Emmanuel Salansky, qui vient de lui consacrer un livre aux éditions Les Belles Lettres. Demain donc, dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal, bien sûr, sur RFI.
Pas du vent, Anne-Cécile Bras.